Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Dimitri, à la une de l'Écho ce matin, une nouvelle bataille entre Suez et Veolia. Mais cette fois, cette bataille se déroule devant les tribunaux.
Oui, ce sera cet après-midi à 14h. Le tribunal de Paris, saisi en référé par les comités sociaux et économiques de Suez et de sa filiale Suez aux France, doit se prononcer ce tribunal sur la suspension ou non du projet de rachat par Veolia. Mais en coulisses, la direction de Suez prépare elle aussi toute une série d'actions, objectifs, noyer Veolia sous les procédures judiciaires et garder le plus longtemps possible son indépendance. Céline Cajoulis.
Chez Suez, l'objectif c'est de reproduire ce qui s'est passé pour le chimiste Sika, qui pendant 6 ans s'est battu devant les tribunaux pour empêcher une prise de contrôle par Saint-Gobain, qui découragé avait fini par jeter l'éponge. La direction rêve donc de reproduire l'exploit et a mandaté 2 cabinets d'avocats spécialisés dans le droit des affaires, dont celui du très redouté Jean-Michel Darrois, à charge pour eux d'imaginer les pires actions devant les tribunaux. Avant même la cession des titres d'Engie, la direction de Suez avait dénoncé les conditions inédites et irrégulières de l'opération, estimant qu'elle pourrait donc déposer des recours. Suez laisse aussi entendre qu'Engie et Veolia ont réagi de concert. Enfin, les avocats de Suez sont en train d'imaginer une série de parades qui mettraient tellement longtemps à être détricotées par les tribunaux qu'elles bloqueraient l'opération pendant de longues années, comme l'avait fait Eiffage en 2007, lorsque Sasir avait tenté d'en prendre le contrôle en Assemblée Générale. Le PDG avait alors privé l'assaillant de ses droits de vote, et même si au bout de 5 ans les tribunaux avaient fini par lui donner tort, entre-temps Sasir avait plié bagage.
L'actualité économique ce vendredi, c'est aussi cette annonce du gouvernement hier soir lors du point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire. Bruno Le Maire, qui était aux côtés d'Olivier Véran, a fait savoir donc que le fonds de solidarité pour les TPE-PME frappés par la crise allait être élargi à 30 de professions qui jusque-là n'y avaient pas accès, les fleuristes, les photographes ou encore les graphistes, pour y accéder. Par ailleurs, le plafond de perte de chiffre d'affaires va être abaissé de 80 à 70%. C'était une demande forte des syndicats patronaux, MEDEF en tête. Le fonds qui s'ouvre enfin à des entreprises plus grandes, désormais jusqu'à 50 salariés. Il était, ce fonds, jusque-là réservé à celles de moins de 20 salariés.
Et parmi les nouveaux bénéficiaires du fonds de solidarité, vous n'avez pas cité des gens qui me sont chers, Dimitri Pavlenko, les bouquinistes des quais de Paris.
C'est vrai, vous avez raison.
Ils sont quelques dizaines, et bien eux aussi vont pouvoir bénéficier du fonds de solidarité et je m'en réjouis pour eux. La crise, Dimitri, a fait tomber des dizaines et des dizaines de milliers de Français dans la grande pauvreté.
Oui, et depuis le confinement, les demandes de RSA, Bernard, sont en forte hausse avec un coût important pour les départements qui financent le RSA, plus 9,2% de dépenses sur un an en moyenne. Le département de l'Allier souhaite en quelque sorte transformer cette dépense sociale en investissement. L'Allier envisage de proposer aux bénéficiaires du RSA d'occuper à temps partiel des postes vacants dans les entreprises locales. Ça va demander tout de même l'aval du Parlement. Émilie Vallès.
Tout part d'un constat. L'Allier compte un peu plus de 10 000 bénéficiaires du RSA et c'est presque autant que le nombre d'offres d'emploi non pourvues dans le département. D'où l'idée de ce dispositif imaginé par Annie Corne, vice-présidente du département en charge de l'emploi.
C'est quelque chose de bon sens. On permettrait sur une durée de 12 mois aux bénéficiaires du RSA de travailler 15 heures par semaine tout en conservant le bénéfice de leurs allocations, ce qui n'est pas le cas actuellement puisque tout salaire est déduit de leurs allocations. C'est une incitation et puis en même temps, c'est la reprise dans le monde de l'entreprise, mais avec un petit taux horaire de façon à y rentrer progressivement.
Alors évidemment, cela ne peut pas fonctionner avec tous les métiers recherchés dans l'Allier. Certains demandent des compétences bien spécifiques comme soudeur ou plombier, mais cela est tout à fait possible dans l'hôtellerie-restauration ou l'aide à la personne, par exemple, explique Jean-Christophe Mallet, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises du département.
C'est des gens qui pourront être formés, peu importe s'ils ne sont pas diplômés. Ce qui est important, c'est la volonté de travailler, de s'intégrer dans un groupe. C'est en travaillant qu'on trouve du travail. Il y a des personnes qui ont eu un accident de vie et qui sont pas très loin du monde du travail.
Le département aimerait débuter cette expérimentation dès le début de l'année prochaine et attend le feu vert du Parlement.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h44, toujours Dimitri Pavlenko chargé de ce journal. Dimitri, parlons de l'actu européenne. Bruxelles va émettre dans les tout prochains jours ses premières obligations anti-crise.
Ah oui, ça va être un moment important, Bernard, parce que c'est la première manifestation de la solidarité budgétaire des 27 entre eux, qui avait été négociée âprement au mois de juillet. Ces premières obligations, elles iront alimenter le fonds Shore, qui a pour vocation d'accorder aux États membres des prêts à taux très bas pour financer le chômage partiel. 17 pays ont fait des demandes, mais ni la France ni l'Allemagne qui parviennent à se financer sur les marchés à taux encore plus intéressants que ceux que proposera Schur. En France, en bref, aussi faute de clients, la SNCF contrainte de supprimer des TGV dans les prochains mois. La compagnie qui vit une rentrée difficile. Le week-end, les trains sont remplis en moyenne aux deux tiers, mais la clientèle professionnelle est en très forte baisse en semaine de 60 à 70%. On a du rififi aussi sur la question des droits TV du foot. Mediapro, le principal diffuseur de la Ligue 1 depuis cette saison avec sa chaîne Téléfoot, veut renégocier ses droits à la baisse avec la Ligue de football professionnelle compte tenu de la crise du Covid. Mediapro n'a pas réglé l'échéance du 6 octobre. Et puis à l'étranger, aux États-Unis, peut-être très bientôt un accord finalement entre démocrates et républicains sur un nouveau plan de soutien à l'économie américaine. C'est un retournement complet depuis mardi, quand Donald Trump avait annoncé le gel des négociations jusqu'à la présidentielle du 3 novembre.
Bien, et puis un petit coup d'œil quand même sur Phoenix dans l'Arizona, où il y aura bientôt des taxis sans chauffeur.
Ah oui, Bernard, vous en rêvez peut-être. Waymo.
Non,
bah, ça ne m'étonne pas. Waymo, la filiale de Google qui travaille sur le véhicule autonome, va lancer en effet un service grand public d'ici quelques semaines. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors, ça fait 3 ans que Waymo est en test à Phoenix.
Voilà, et ça fonctionne, Dimitri. Le succès est au rendez-vous. Vous téléchargez l'application Waymo et la voiture robot vient vous prendre. Alors bien sûr, elle est bardée de capteurs et de radars. À l'intérieur de l'habitacle se trouve un écran sur lequel vous pouvez voir ce qui se passe à une distance équivalente à 3 terrains de football dans toutes les directions. Jusqu'à présent, la très grande majorité des véhicules transportaient un conducteur de sécurité afin de pallier à tout problème. Il ne touchait au volant qu'en cas d'urgence, des cas si peu nombreux que Waymo a décidé de généraliser à un public plus large ces voitures robots, mais cette fois sans chauffeur de sécurité. Les véhicules autonomes pourront pour le moment circuler dans une surface limitée, à 12 hectares. Pour vous donner l'idée, c'est l'équivalent de la moitié de la surface du jardin du Luxembourg à Paris. C'est la première fois, en tout cas, qu'une entreprise propose des voyages payants sans aucun pilote humain à bord.
C'est intelligent sur le plan technologique, mais ça ne me branche pas, Dimitri Pavlenko. Mais alors, vraiment pas du tout. Il est 6h47, nous avons une minute de retard.